Bonjour à tous. Bonjour à tous.
Au secours.
Bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto de 11h à 12h30 sur Campus Lille 106,6 ou campuslille.com. Au menu de cette émission, nous avons rendez-vous avec Christophe Tillemant pour le sommaire du mag, du magazine, du moto magazine de juin. Bonjour Christophe.
Bonjour Mich, bonjour à tous.
Alors, on va parler de des motos à l'essai. Bah, ça, c'est un petit peu, c'est marronnier. Ça revient un peu tous les mois.
Il y a c'est un magazine de motos.
Il y a toujours des motos à l'essai dans ce magazine.
Et on va voir que ça tape dans tous les types de pratiques de la moto et donc des nouveautés, des présentations en avant-première, de quoi nous mettre nous à la bouche pour la suite. Enfin, il y a des personnalités
qui marquent le monde de la moto.
Oui, j'ai voulu effectivement consacrer une rubrique parce qu'il y a des interviews, bon, des gens qui nous sont proches parce qu'ils font partie du mouvement et donc il y a des nouveautés. Il y a des choses qui existent déjà et bon, je trouvais que c'était intéressant de faire un petit focus sur eux. Et puis il y a toujours le portrait du mois et bon, une personnalité que je souhaitais mettre un peu en avant.
Oui, donc on va revenir un petit peu sur le deuxième Titi. Hein, celui qu'on en parle un peu moins quand même, c'est le Max Grand Prix qui se déroule en fait fin août là-bas sur l'île de Man.
Voilà, donc un peu la porte d'entrée du Tourist Trophy, hein, donc une course amateur, mais c'est le même circuit. Et donc, on va en parler. Alors,
Ça tombe bien, Christophe, parce que nous avons des collègues de Kikinko Classique qui sont, ben, ils sont là-bas, sur l'île de Man.
Ah ben c'est génial.
Donc je viens de téléphoner, il y a deux secondes, il pleut.
Ah.
Tu vois, mais c'est normal, c'est sur l'île de Man. Mais en fait, ça passe très vite, tu vois, c'est une île, donc les nuages passent très vite.
C'est pour ça qu'il faut monter des barnums qui tiennent le coup. Hein.
Voilà, donc on va avoir une petite carte postale sonore, hein, de l'île de Man. C'est pas beau, ça, qui va coller avec le sujet. Voilà, un test de bouson, j'ai vu dans le magazine.
Oui, voilà, bah, j'ai fait aussi une chronique un peu consommateur, consommotard. Et puis, puisque c'est quand même assez tendance, hein, le vintage. Vous avez vu, je suis arrivé.
Ah oui, t'as un super look.
Voilà. Ouais. Et donc, le blouson cuir qui s'adapte, hein, un petit peu à la pratique de la moto d'aujourd'hui. Donc, on va passer en revue les propositions de consommation qui nous sont proposées dans le magazine.
Et pour terminer, les conseils de la pratique de la moto un peu pour...
Voilà, alors quand on a la moto et qu'on a l'équipement...
Éviter de rouler en short peut-être, ça...
Absolument.
Hein, très bien.
Et puis je donnerai un témoignage, tiens, tout à l'heure, sur justement une rubrique qui est proposée là dans Motomag.
Éviter de rouler en short ou en tong, hein, c'est pas ça.
Vendredi soir avec l'orage qui pointait, là.
Voilà,
je vous raconterai.
Voilà. Bon, alors, suite du sommaire, vers 11h50, nous allons retrouver au téléphone notre motard militant et citoyen. Guy nous parlera du gilet jaune, qui devra bientôt être porté à portée de main, hein, pour les motards en cas de problème sur le bord de la route. Alors ça va être rigolo, ça, hein, encore une fois. Nous avons rendez-vous aussi avec Jean-Yves Ballois, membre de la FFMC Nord. Jean-Yves, bonjour.
Bonjour tous les gens. Voilà. Et FFMC, c'est motard en colère, et je suis en colère.
Et de plus en plus en colère, je crois. Toi, c'est l'inverse. Hein. Toi, t'es venu avec un t-shirt, mais là, attention, un coup de poing, c'est un t-shirt de boxeur.
Non, c'est le t-shirt du Rocket Club. Pas de problème.
Voilà, tu vas nous parler un petit peu de cette manif qui s'est déroulée sur l'A16 le 14 mai.
Le 14 mai, effectivement, et une manif aussi balade sifflante pour le circuit de Lausanne. Et je vous parlerai plus tard aussi de l'opération motard d'un jour.
Pour revenir sur cette balade sifflante, nous avons le vice-président du complexe moto, hein, Jean-Marc, qui vient juste d'arriver. On va en parler juste après le morceau de musique, hein, parce qu'on va avoir on va avoir deux personnes ici dans le studio et qui ont participé au débat avec le maire de Léquin, hein, Danny Wattebled. Et donc on va pouvoir connaître un petit peu les propos de cette personne, hein, de ce qui s'est dit donc à cette balade sifflante. Voilà, on termine le sommaire avec Christine. Bonjour Christine. On va terminer le sommaire, j'avais oublié Nathalie. Effectivement. Non mais comme je t'oublie toujours Christine, bonjour Christine.
Bonjour. Bonjour à
voilà.
tous.
Et on va terminer effectivement le sommaire avec Nathalie. Et alors son surnom c'est Chérie, c'est ce qu'elle m'a dit.
Bonjour.
Bonjour Nathalie, il faut que tu parles au micro parce que
bonjour.
Les auditeurs t'entendent quand même. Alors toi, c'est un peu spécial, hein, parce que tu t'es dit, tiens, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'activités ici dans la région au niveau de la moto, et tu t'es dit que ce serait bien qu'à chaque fois, il y ait un don du sang.
Oui, sur chaque concentration, sur chaque rassemblement, l'idée c'est de mettre une collecte de dons de sang sur chaque concentre.
Donc tu as contacté l'EFS pour leur dire, écoutez, moi je vais créer mon motoclub, c'est bien ça?
Alors en fait, je ne suis pas encore sûre de créer un motoclub, mais ce que je veux c'est retrouver des gens qui peuvent m'aider pour sensibiliser les motards aux dons du sang.
Donc à chaque fois, il y aurait je sais pas comment ça marche, il y a un car, il y a un bus, ça marche comme ça.
Alors ça peut être un camion.
On fait une collecte de sang, quoi.
Oui, alors ça peut être un camion, sachant que l'EFS est un peu en rupture de camion, mais on peut très bien faire une collecte dans une salle des fêtes, chez un concessionnaire. En fait, sur chaque concentration, on peut.
Donc à chaque manifestation, pas forcément une concentre.
Chaque chose qui. Ça peut être, je pense au Seclin Motor Show.
Exactement. Donc on prend le calendrier des motoclubs, par exemple, c'est rempli de manifestations, et à chaque fois, donc.
On va donner son sang toutes les semaines.
Est-ce qu'on peut donner son sang toutes les semaines? Si on est un cours de sang, qu'est-ce qu'on fait?
Et on le donne quand même.
On le donne quand même. Donc non, on meurt.
Plaisante. Je plaisante. Bien sûr que non. Il y a une règle, évidemment. Vous pouvez donner votre sang 4 fois par an maximum, avec un délai de 3 mois entre chaque don. Donc évidemment, on ne peut pas vous prendre.
Très bien. On va passer notre premier morceau de musique, notre pause musicale, et puis on viendra donc sur cette action de donner son sang. Je pense c'est un peu quelque chose de
solidaire.
De solidaire, effectivement, surtout pour nous les motards.
Et c'est surtout nécessaire.
Puis on va quand même terminer ce sommet en présentant notre technicien chéri, qui est quand même. Ça s'appelle aussi chéri. c'est notre grand Lolo, depuis qu'il a eu son portrait en pleine page en Motomag. C'est lui qui nous prépare ce programme musical et qui nous fait aussi cette technique merveilleuse.
Oh, c'est gentil. Eh bien, bonjour à tous. Oh,
Voilà, on va parler la première. On parle donc le sommaire du magazine donc de juin Motomag, les motos à l'essai.
Voilà, le dernier avant les vacances, donc l'occasion de faire un tour d'horizon de tout ce qui est programmé. Donc la page de couverture, c'est comment la Suze s'impose. Donc un gros comparatif. Là, ils ont fait très, très fort. Ils ont sélectionné les gros rosters du moment. Et la GSX-S 1000, donc la Suzuki, nous est présentée sur toutes les coutures. Et on sent qu'elle leur a plu. Donc, et quand on regarde la photo, justement, c'est à faire un parallèle avec un article qui est développé dans le mag sur la pratique de la moto en duo. Alors, la pratique touristique, mais pas que. Et on connaît tous les mototaxis, les motos du Tour de France, mais aussi les motos de Motomagazine pour faire les prises de vue. Et donc, les photos, la plupart des photos de couverture sont prises avec un passager qui est inversé sur la selle passager, donc dos à dos avec son pilote. Donc, une bonne confiance à avoir en lui. Alors, les autres motos qui sont présentées, l'Indian Scoot. Elle était présentée chez Anthony à Metren il y a pas très longtemps. Je pense qu'il y a des membres d'ailleurs de Kikinkou qui sont allés l'essayer. Alors une moto mythique. La Scoot, je rappelle qu'elle a été créée en 1920 et donc jusqu'en 1949. C'est un autre temps. On sortait des motos pour 30 ans, une génération. Et c'est quand même sur cette moto-là que Burt Monroe, sur le lac Salé, a battu son record. Bon, évidemment, c'était peu autre chose au niveau préparation. Et donc, vous retrouverez la présentation de cette moto. Des nouveautés aussi chez BMW, la F800R donc, qui ressort relookée et qui semble aussi avoir bien plu à la rédaction, puisqu'il y trouve un caractère fun. Et puis aussi une déclinaison de la 1200. On connaissait la 1200 RT. Et BMW revient à ses premières amours, si je puis dire, en sortant la version RS. Il faut savoir que la K1200, mais la R1200 aussi, la version RS pour Ryzen et Sport, tourisme, voyage et sport, était la plus vendue dans les années 90 et qu'elle s'est fait détrôner par la 1200 GS. Alors peut-être que pour ceux qui pratiquent le bitume, on retrouvera donc une pratique de la moto moins trail avec cette 1200 RS. La MV Augusta qui décline aussi une de ses motos, c'est la caractère sportif de ses motos, donc qui nous prépare une moto et sort une moto donc destinée au voyage. Et puis pour la piste, l'Aprilia, là on flirte dans les 200 chevaux. Ceux qui connaissent la marque et son son envoûtant, vraiment une invitation à partir sur la piste. Et puis puisqu'on parle de piste, je voudrais faire un petit clin d'œil au Grand Prix au Mans qui a reçu vraiment un succès considérable puisque sur le week-end du 15 et 16 mai, il y a eu plus de 183 000 participants, donc personnes qui sont venues, spectateurs qui sont venus sur le circuit de la Sarthe, et ça a été vu à la télé par plus de 600 000 personnes entre Eurosport et NT1. Donc vraiment un Grand Prix qui a
un gros succès.
Cartonné, effectivement, pardon, loin devant les 24 heures du Mans. Donc voilà, vous retrouverez donc tous ces sujets-là développés plus en détail. Lamich, je te rends la parole.
to see a little more fat. Yeah, I like to see a little more fat. You know, I like to see a little more fat.
Voilà, c'est le magazine de la moto, c'est tous les dimanches de 11h à 12h30, c'est sur Campus Lille, 106,6 ou sur Internet. Voilà, donc deuxième sujet, c'est les personnalités qui marquent le monde de la moto et aussi alors l'île de Man et ou alors cette deuxième course hein, qui a lieu sur cette fameuse île qui est coincée là-bas dans la mer d'Irlande. Hein.
Voilà.
En mois d'août, hein, c'est le Max Grand Prix. Manx alors, Grand Prix, donc, pas Max, Manx Grand Prix.
Comme tu le dis, nous sommes dans une émission de la moto, mais on parle d'un magazine de moto, mais aussi des hommes et des femmes qui font la moto. Et donc, je voulais effectivement parler de trois personnes et puis des huit pilotes qui sont sur l'île de Man et qui participeront peut-être au Tourist Trophy dont on parlera tout de suite après. Donc, je voulais juste faire un clin d'œil et rappeler que la FDM, que nous connaissons tous, donc qui fait des programmes de formation et de perfectionnement, je dirais, de la pratique de la moto, vient d'obtenir son agrément et a ouvert une auto-école sur Paris qui a ses locaux dans les locaux donc, de la FFMC et des éditions de Moto Magazine. Donc, et FDM Pro, aujourd'hui, est en mesure de proposer donc, une formation avec toutes les valeurs véhiculées donc, par notre mouvement sur Paris. Alors, voilà, juste un clin d'œil, donc une interview de Lilo Pispisa, excusez-moi pour l'ex-prononciation.
Mais je comprends.
Voilà. Et donc, vous retrouverez son interview. Alors, puisqu'on est dans l'adresse donc à Montreuil, le siège dont je parlais tout à l'heure, de la FFFC, de la FDM et de Moto Magazine, également une autre interview, et donc ensuite Jean-Yves développera, une interview donc de Nathanaël Gagnère, qui est le délégué général de la FFMC, et qui nous parle de Motard d'un jour, donc je n'en parle pas. Jean-Yves a prévu de nous faire un retour là-dessus. Mais vous trouverez effectivement l'esprit national du développement donc de cette initiative, qui n'est pas nouvelle, hein, je le rappelle. Une autre personnalité, et ça tous les mois, Moto Magazine nous y a habitués, c'est de présenter donc quelqu'un qui parle dans le monde de la moto. Et là, il s'agit d'une femme. Alors d'ailleurs, ça m'a amusé parce qu'en fait, un pilote, une pilote, on marque « pilote tous azimuts ». Mais il n'y a pas de féminin pour pilote, donc c'est une pilote, voilà, pilote professionnelle qui a été nommée directrice technique du circuit de La Ferté-Gaucher en Seine-et-Marne. Et donc c'est une première, c'est la première femme dans ce monde de la moto. Je ne ferai pas de commentaires.
Hein. Il y a plus en plus de femmes. Hein. Non.
Voilà. Oui, mais à la tête d'une structure comme celle-là.
Moi, j'ai remarqué qu'elles étaient avant, elles étaient passagères. Maintenant, elles deviennent pilotes. Comme tu dis, pilotes. Et c'est les mêmes qui sont derrière. Maintenant.
C'est effectivement une nouveauté. Et puis, donc, tu nous l'annonçais en lancement du sujet, l'île de Man. Il se trouve donc qu'on a des membres de l'asso là, qui sont sur place. Et un article, ça tombe bien, nous avons un article sur le Man GP, Manix, pardon, Manx, GP.
Norton Manx.
Qui est en fait ce que est au Tourist Trophy.
Alors, c'est pas vrai. Le Manx, tu sais ce que c'est que le Manx ? peut-être que Jean-Yves doit savoir.
On va apprendre quelque chose.
C'est le chat sans queue.
Alors, c'est typique à cette île. Ce sont des chats sans queue, en fait. Donc, ils naissent comme ça. C'est des chats très protégés là-bas sur l'île. Hein.
Voilà, c'était la rubrique culturelle.
Je m'excuse, mais attends.
Non, mais
pour une fois, c'est quelque chose.
T'as pas à t'excuser, l'ami.
Et moi, j'en ai vu.
Jean-Marc, il faut que tu parles devant le micro.
Et moi, comme j'ai été trois fois à l'île de Man, j'en ai vu là-bas.
Ben moi aussi,
c'est
vraiment
une particularité. Ouais. Et ils sont très protégés et les gens font attention parce que il y aurait peut-être des malandrins qui seraient heureux de les voler.
Oui, et si jamais t'es pris à voler un manx, tu vas en tol. Hein. Alors là, c'est ça bat d'une poêle avant.
Le problème, c'est qu'il y a des margoulins qui coupent la queue à la naissance et qui les vendent comme chats de manx.
Bon, très bien. On va revenir parce qu'on a quand même des gens qui nous écoutent au téléphone là-bas.
Revenons à nos manx. Donc effectivement, sur le circuit de l'île de Man, je rappelle donc 60 km, des virages à gogo. Mais Jean-Marc, tu pourras nous en parler puisque tu as la pratique. Et puis surtout un circuit pas du tout roulant, qui fait que ils sont obligés de lâcher les gaz dans la ligne droite parce que c'est pas du tout un billard comme certains circuits. Et donc les 8 pilotes qui se sont engagés l'année dernière, et donc c'est une restitution, nous disent leur façon de procéder. Alors ils sont tous réengagés pour fin août. Et Manx fin août et Tourist Trophy en ce moment.
Voilà,
où nous avons...
c'est fin mai, début juin.
Voilà.
Est-ce qu'on peut parler avec notre ami donc de 15C, un classique qui se trouve là-bas sur l'île de Man.
On essaye la liaison.
Il a peut-être raccroché. Gabi, tu nous entends?
Non, je suis toujours là.
Oh, c'est fantastique. T'as eu la patience d'écouter Christophe.
Ouais, je commence à m'endormir un petit peu.
Tu t'endormais. Bon, alors, c'est ce que vous avez dû faire la bringue hier soir, alors là-bas, sur l'île de Man.
Non, même pas très, très sage, parce qu'on savait qu'on passait à la radio ce matin.
Mon œil.
Donc,
est-ce que tu as entendu ce qu'a dit Christophe? 60 km de long, que des virages.
60 km de circuit, donc ça fait quoi? 22 de large, combien de long l'île? 30 de long, à peu près, un truc comme ça?
Oui, alors?
À peu près. Et donc, on a regardé, nous, quelques essais toute la semaine. Hier, il a fait un temps de cochon, donc ils ont annulé tout ce qui pouvait se passer. Il y avait un banc de voleurs. Il y a quelques amis là, qui ont roulé un petit peu, mais ils ont failli s'envoler. Donc, les courses ont été décalées. Ça commence que aujourd'hui, vers 14h, si je ne me trompe. Des superbikes, suivis des sidecars vers 17h.
Alors,
on peut dire le Manx qui se déroule donc, je le rappelle, fin août, se pratique sur 15 jours avec donc les essais le soir et les courses le jour.
Oui.
C'est pareil là en ce moment ?
Non, là c'est les essais le soir, ils coupent les routes vers
17h45
jusqu'ils ouvrent les routes après à 20h.
D'accord. Alors dis, pour les néophytes, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'île de Man ou le Tourist Trophy, tu peux nous resituer où se trouve l'île ?
Bah, Lille, nous on a pris le bateau arrivé à Douvres, on traverse toute l'Angleterre dans sa grande largeur, arrivé à Liverpool, et l'île de Man, on prend le bateau, donc elle se trouve entre l'Irlande, si je ne me trompe, et l'Angleterre à peu près.
Le pays de Galles et l'Écosse.
C'est une île qui est coincée dans la mer d'Irlande, là-bas, entre l'Écosse, l'Angleterre et l'Irlande.
Voilà.
Et c'est le Saint Graal, c'est la Mecque, hein, voilà, ou le lourd de comme on veut, hein, de la moto. Hein. Tu confirmes, tu m'as dit qu'il n'y avait que des motos.
J'ai jamais vu autant de motos de ma vie. Moi, ça roule tout le temps, toute la journée.
Alors,
je dirais pas toute la nuit, mais presque.
Alors, Gabi, c'est la première fois que tu te rends là-bas sur cette île, que tu assistes à cette course. Alors, tes premières impressions, parce que je sais aussi que tu as tourné sur le circuit. On peut tourner sur. Et les vitesses sont. Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de radar, il n'y a rien. Hein. Là-bas, on ne s'est pas limité.
Rien du tout.
En
ville, c'est un peu limité. Quand c'est hors course, c'est limité en ville, il faut faire attention. Par contre, sur les routes, il n'y a pas de limite.
Donc,
Nous-mêmes, c'était quand hier matin ? Avant-hier matin, on s'est fait la route des montagnes avec nos vieilles gusilles pourries, là. Hein. Bon, on s'est quand même fait un petit 180 par bonheur.
Ah, tu m'as dit 280 hier ?
Non, avec un V11, ça m'étonnerait. Non, il y a le copain qui a un MV Agusta, lui, il est monté à 230 à peu près.
Ah oui, bah avec une MV, oui. Oui.
Ça fait quand même assez drôle.
Alors les impressions, justement, quand on roule à cette vitesse sur ce parcours, parce que bon, c'est pratiquement que des virages. On n'a pas le nombre de virages, hein, mais sur 60
km. Effectivement, les pilotes qui témoignent dans le mag nous disent qu'il n'y a pas de visibilité sur les virages, donc il faut étudier, il faut savoir ce qu'il y a derrière. Donc souvent,
ouais, tout à fait, ouais.
Ils repartent avec leurs vidéos de l'année précédente et ils travaillent leur préparation justement en revisionnant ces vidéos.
C'est ce que tu as fait, Gabi. Tu as enregistré, tu as filmé, et quand tu vas revenir, non. Tu vas repasser ça en boucle pour l'année prochaine peut-être.
Ah oui, j'ai fait pas mal de vidéos, pas mal de photos. Bon, après on s'arrangera pour mettre ça sur le forum peut-être. Mais il y a pas mal de choses intéressantes, et notamment là on était, c'était où l'endroit où Crosby. Un endroit assez sympathique, dans un bon bout de droit, il passe à 1m50 de nous à 270, quoi.
Ah oui, dis donc, 1m50 à 270.
Ah ouais, bon. on est en dehors du trottoir, et eux ils sont...
Faites attention, hein. Ouais.
Ah oui, mais t'as pas le choix.
Bon, comment ça se passe en dehors des courses? Comment ça se passe l'ambiance là-bas?
Ouais, les paddocks.
Alors le soir, les paddocks, et puis voilà quoi.
Le soir, Douglas, là on se trouve à Douglas, hein, le soir t'as beaucoup d'animation, il y a une fête foraine. Il y a des concerts tous les soirs sous une tonnelle, quoi. Il y a beaucoup d'ambiance le soir. Il y a des concerts en ville. On est allé voir Sled, notamment. Mais sinon, c'est la fête tous les soirs. Hein. Après, je ne peux pas te parler des campings. On s'y trouve pas. Nous, on a loué un bed and breakfast. Et puis voilà, c'est vraiment toute la journée. Finalement, on roule, on repère un peu les endroits là où on veut aller. Et puis, au moment des courses, on s'y trouve. Et puis, on attend que ça se passe.
Alors, sur l'aspect pratique, tu nous as dit comment tu étais arrivé là-bas. Est-ce que tu avais réservé ton voyage longtemps à l'avance? Parce qu'on imagine qu'il y a tellement de monde.
Oui, Christophe, le bateau, tu l'avais réservé un an avant, on peut pas.
Un an avant, voilà. Faut réserver. Ah, bah dis donc, hein,
voilà.
Bon,
ouais.
Pour être sûr d'avoir quelque chose, quoi.
Bon, alors, voilà, c'est ce qui est important de dire, c'est que sur cette épreuve-là, il faut s'y prendre très longtemps à l'avance. Sur le Manx, il y a un peu plus de chances d'avoir une place au dernier moment. Et puis, il y a aussi le Titi classique, hein, donc qui se déroule en même temps et qui permet aussi de voir des belles machines.
Parce que vous savez qu'il y a une deuxième course au mois d'août, hein, c'est le Manx Grand Prix.
Oui, tout à fait, oui, c'est le Manx.
Voilà.
Mais enfin, on peut pas tout faire, hein, parce que c'est quand même un peu... Les prix ici, c'est prohibitif. Hein. Le litre d'essence, il est à 23, donc ce qui fait environ 2 euros à peu près.
Ah oui, mais tu peux pas tout avoir, hein, pas de radar, pas de limitation de vitesse, et puis l'essence pas chère. C'est pas possible.
C'est vrai qu'on roule quand même pas mal ici, pour aller d'un point à un autre, même si c'est pas grand, on roule beaucoup.
Est-ce que vous avez été au rendez-vous des Français, là, sur
c'est mercredi prochain. On a raté le coche.
Il y a Jean-Marc qui me dit que c'est vendredi prochain.
Non. L'apéro des Français, c'est toujours le mercredi de la semaine des courses. Et ça se passe donc sur la jetée de Douglas, en face de la petite... Il y a un petit puits, une petite fontaine. Et c'est là où se trouve l'apéro des Français. Voilà.
Ah bah si c'est mercredi prochain, on sera rentré, nous.
Voilà.
Voilà, au moins vous restez une semaine de plus, hein, c'est pas grave.
Sinon, on prendra le bateau la semaine d'après.
Voilà, qu'est-ce que vous buvez comme bière là-bas parce que je sais que vous buvez de la bière.
On s'est mis à la boisson locale, hein, quand même. C'est ce qu'il y a de meilleur, hein. C'est la Guinness.
La Guinness, ou...
Le reste, c'est la blonde rousse à 3 degrés.
Donc en fait, il y a à boire et à manger, quoi.
Il y a à boire et à manger, c'est vrai. On fait qu'un repas le matin et puis un bon le soir, c'est tout.
Il y a peut-être aussi de la Murphy, non? Parce que je sais que la Murphy, elle est bonne aussi. Non, elle n'est pas vue. C'est irlandais, ça,
les Murphy. Qu'est-ce que t'as bu, toi, hier? Voilà. C'était pas bon. Hein.
Donc là, il y a un décalage d'une heure, hein, donc il est 10h30. Allô?
Oui.
Le temps aujourd'hui, là, ça donne quoi?
Eh ben écoute, aujourd'hui c'est splendide, il y a un peu de vent comme d'habitude ici, mais là il y a quelques nuages blancs, mais le ciel est bleu, ça nous change d'hier. Hier, comme ils ont tout annulé, ça se comprend avec le vent, la pluie.
Et donc les courses là, les courses vont commencer à quelle heure?
Là, ils ferment les routes, si je ne me trompe, à 13h45, pour la course à 14h, un truc comme ça. Voilà, là ce sera le super bike, je crois.
Et donc c'est course contre la montre, hein, c'est pas en paquet, hein, c'est concurrent part à deux sur la ligne.
Je ne sais pas si c'est un ou deux, mais enfin, je crois que c'est deux, oui.
Ouais.
De départ, c'est deux, hein, il me semble. Ils partent à deux, oui.
Ouais. Vous avez été à l'extrême nord de l'île?
L'extrême nord, est-ce qu'on l'a fait, l'extrême nord?
Oui, on a vu les coques.
Parce qu'il y a les phoques là-bas, à l'extrême nord.
On les a pas vus, les phoques.
Il y a les phoques. Il fait trop chaud. C'est, à mon avis, c'est le. C'est le réchauffement de la planète. Ils sont partis. Alors. Il fait trop chaud encore. Il fait déjà trop chaud là-bas, l'île de Man.
Ouais. Gabi, est-ce que l'ambiance dans les paddocks, ça fait pro ou il y a un peu l'ambiance Continental Circus?
Non, ça fait quand même assez pro.
C'est hein, pro, oui.
Ils ont mis tout ce qu'il faut pour que ce soit bien. Non, c'est sérieux.
D'accord.
Ils prévoient ça.
Donc,
les stands de départ, ils ont tout bien prévu, c'est bien organisé. Ouais, bon. Ils sont habitués aussi, je pense.
Écoute, Gabi, on va te laisser parce que les courses vont bientôt commencer. Oui. Le temps de vous placer, trouver un emplacement qui est pas mal. Parce qu'une fois que les courses ont commencé, on peut plus bouger, hein.
Ça, c'est selon si on se trouve à l'intérieur du circuit, si on peut dire, ou ouais. À l'extérieur. Il y a quand même quelques petites routes, mais tu peux pas vraiment.
C'est fini, hein. On peut plus ouais, circuler, ouais, mis à part à l'intérieur, mais on peut plus circuler sur l'île.
Voilà. Une fois qu'ils ont bloqué, tu passes plus. Ça, c'est terminé. Bah, t'as pas envie de rencontrer non plus un fou furieux à 280, quoi.
Non, évidemment. Ça, c'est, il faudrait pas non plus prendre la route en sens unique, et puis, voilà. Voilà. Oui, c'est compréhensible. Voilà. Très bien. Ben, on va te laisser. On vous laisse, puis passer encore quelques beaux jours là-bas, sur les deux manes.
Jusque demain soir. On repart mardi matin.
Voilà. Très, et puis, vous nous avez dit que vous aviez eu une petite frayeur sur le bateau, hein.
Ah oui, le bateau, on a traversé en 3h30, il y a eu 40 motos qui ont été bousculées, pas les nôtres heureusement.
Et les motos qui sont tombées
vraiment, ouais, ouais. Il y avait une tempête, je pense que le bateau a pris du retard à cause de ça.
Très bien.
Il est parti un peu plus tard pour attendre que ça se calme, mais ça s'est pas calmé vraiment beaucoup.
Ça va, t'as pas le mal de mer?
On a pris quelques cachets pour en prévision.
Ah, quand même. Bon.
Parce que tu sais ce que c'est un bateau autour de toi, il y a un sac, il y a des bruits bizarres.
Tu prends une pinte de bière, dîner, c'était au chevalet. Bon, très bien, on vous laisse et passez encore un peu.
Passez de voir notre tour, on fera un petit topo des photos.
Ok, d'accord. Et bien, vous viendrez à l'émission, en parler.
Oh, ok, ça marche. Allez, bonne journée.
Allez, au revoir. Christophe, je te propose de faire une petite pause là sur le sommaire du mag. Est-ce que ça te convient? Parce que là encore le temps est compté, malheureusement.
Adopté,
bon, très bien. Jugé, allez, voilà, hop. Voilà, nous sommes en compagnie du vice-président du complexe moto, les RCM, en fait, complexe moto de Lezen, Jean-Marc Van der Hellen.
Oui.
Bonjour Jean-Marc, il vient juste d'arriver. Enfin, il était là déjà depuis 10 minutes. Mais en plus, Jean-Marc, toi, tu connais le Touristrophy, hein, parce que
qui
est allé au moins.
J'y suis allé trois fois.
J'allais déjà dire cinq, mais non, c'est trois.
Non, trois fois. Donc une fois au centenaire.
Voilà.
Chose fabuleuse.
Au centenaire.
Ah, au centenaire.
Ah, bah là, il fallait trouver de la place, hein, au centenaire.
Oui,
là, c'était 2 ans avant qu'il fallait réserver le bateau.
Pratiquement,
hein.
Oui.
2 ans avant. Hein. C'est incroyable,
mais bon, voilà. Au centenaire, ils ont fait tourner les machines de 1907 quand même. Ils ont fait tourner les machines anciennes.
À l'origine, la première course a eu lieu en 1907. Vous vous imaginez un peu le truc là. En fait, moi j'ai eu un article là. C'est en fait le Touristrophy, c'est le Saint Graal de la course. Hein.
Voilà.
Non, mais pour les pilotes britanniques surtout, hein, parce que c'est toujours les Britanniques qui gagnent le Touristrophy.
Ouais, ou les manoirs.
Mais aujourd'hui, c'est pas pour le Touristrophy que tu es dans les studios de Campus.
Non.
Et ainsi que Christine, mais Christine, elle est là tous les dimanches. Parce que vous avez participé, vous étiez avec aussi Benoît Delemotte, hein, qui est le coordinateur de la Fédération Française des Motards en Colère. Vous étiez trois à assister donc à l'entretien avec le maire de Léquin, Danny Wattebled.
Effectivement.
Que donc... s'est-elle dit? Parce que vous étiez trois, donc on n'a pas d'enregistrement, on n'a rien. Donc les propos, vous avez parlé pendant une demi-heure, je pense, 35 minutes.
Voilà, donc effectivement, donc, la semaine dernière, on a fait notre manif. Il y avait environ 150, 160 motos. Et on a donc fait notre manif dans le calme, par petits groupes, jusque Léquin. Et on a été reçu par le maire de Léquin à partir de 11h pour environ une bonne demi-heure de discussion libre. Et franche, il n'y a eu aucun souci, on s'est expliqué. Donc la problématique du maire de Léquin, c'est le bruit qui est fait le week-end principalement. Il dit la semaine ça ne me pose pas trop de problème puisque les Léquinois sont au travail, mais c'est surtout le week-end, ils ne peuvent pas profiter de leur jardin. Donc on lui a aussi, donc il mettait tout en avant sur le bruit et principalement des machines étrangères, des gens qui viennent de Belgique et des Pays-Bas, pour lui. Or, nous, on sait très bien que ce n'est pas ces gens-là qui sont les majoritaires dans le complexe moto, puisque en 2014, on avait 80% d'adhérents qui étaient de la région Nord-Pas-de-Calais et que 12,65% des gens qui étaient hors région. Ce qui veut dire que c'est vraiment une minorité de personnes. Donc, on lui a expliqué les chiffres, mais lui, il vient à dire que c'est principalement des motos qui servent à faire de la compétition et qui sont modifiées et les gens viennent faire des essais, hein, pour des mises au point sur leur machine et c'est ça qui génère le plus de bruit.
Bon, faut parce qu'il dit que les motards classiques, enfin, la moto classique en elle-même, ça ne le gêne pas, quoi.
Voilà, tout à fait. Il dit, si c'est le motard lambda de la région de l'île Roubaix-Tourcoing qui vient tourner, ça ne me dérange pas.
Bon, ça c'est les propos du maire, mais toi, tu es vice-président, donc tu es souvent sur le complexe. Est-ce que tu penses que ce qu'il dit, c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment objectif?
Alors, il y a une chose qui a été importante sur le circuit, sur la ville de Léquin, c'est qu'avec les travaux du Grand Stade, il y a eu des buts qui ont été rabotés, il y a eu des arbres qui étaient...
On a coupé ces arbres? Et qui a demandé à couper ces arbres?
Ben, ça a été lié au plan d'urbanisme, mais également au fait qu'on a une ligne EDF qui passe en plein milieu du complexe moto. Et on est obligé de tenir une hauteur maximum, sinon on risquerait d'avoir des problèmes avec l'EDF, puisqu'on pourrait avoir des arcs électriques entre la haute tension et les arbres. Oui. Donc c'est un peu tous ces contextes-là. Et deuxième chose, c'est que les constructions des parkings en silos qui ont été faits à l'entrée du complexe, il y avait des arbres à cet endroit-là, et le fait de mettre maintenant une structure en béton...
Ça renvoie le son.
Ça renvoie le son, ouais. Plutôt sur les quins.
D'accord.
Donc, on dit toujours le circuit de Lezen, mais il faut savoir qu'il est à cheval sur les deux communes. Une partie sur Lezen, environ 30%, et environ 70% sur la commune de Léquin. C'est un terrain qui a été mis à disposition par la métropole lilloise, par l'AMEL.
Il y a 30 ans.
Il y a 30 ans. Et il y avait normalement renouvellement du bail à la fin de l'année 2015. Dans une décision qui a été prise lors d'un bureau de l'AMEL, cette prolongation a été faite jusque décembre 2016, ce qui donne un peu de temps et un petit peu de répit pour pouvoir derrière.
Là, donc là, ça c'est la nouveauté. Hein. On a une petite,
une petite prolongation.
Prolongation.
En sachant que cette prolongation d'un an, c'est une première chose, ça évite de faire tout dans
la précipitation.
Dans la précipitation. Et surtout de voir là, un moyen pour effectivement limiter le bruit. Soit en mettant des buts
plus haute du côté de l'équin, soit en mettant des murs anti-bruit, mais faire une vraie étude qui soit non pas un cataplasme sur une jambe de bois. Faire quelque chose de sérieux. Deuxième chose aussi, par rapport à l'homologation du circuit, il est prévu normalement de faire des travaux de chicane juste avant le pont, à une partie qui est assez rapide. Et de ce fait-là, ça cassera également le bruit, ça limitera le bruit.
On va devoir couper les gaz, donc forcément
un bruit atténué.
Est-ce qu'il a expliqué pourquoi il a donné des permis de construire en veux-tu, en voilà, de plus en plus près
ça,
du circuit
c'est pas... Non mais ça c'est une chose.
Mais je veux dire que le circuit existe depuis 30 ans.
Lui, il dit qu'en fait pour lui, le complexe a changé au niveau de
la mentalité,
de
l'objectif du complexe.
Il n'est pas contre les valeurs.
Mais c'est pas vrai, parce que les Belges viennent depuis des années.
C'est du baratin de politiciens, ça.
Tout à fait, mais...
Quand on est à l'équin et qu'on regarde vers le circuit, il y a d'immenses buts pour justement casser le bruit de l'autoroute. Et le circuit est encore après l'autoroute.
Bon,
la chose,
c'est qu'il a, apparemment, il a des plaintes de riverains, et donc ça, tu peux pas nier.
Les riverains sont venus s'installer.
Le seul problème, c'est que pourquoi on coupe les arbres? Alors que justement, on savait très bien que ces arbres atténuaient le bruit.
D'ailleurs, on a rencontré
un gars d'une société, et qui a eu le contrat et qui quand il a su ça, il s'est dit c'est fini pour le circuit, parce que quand on dit on coupe les arbres, on accentue le bruit. Donc on fait tout pour justement.
Quand
on veut tuer
son chien, on dit qu'il a la rage.
Exactement.
Le foot, il a un grand stade, il y a des moyens pour mettre en place justement des structures pour éviter
on va revenir sur la conversation. Donc le bail donc a été re-signé pour un an et demi.
Il serait prolongé pour
un an,
donc ça permettra, je pense, d'être un peu plus serein. On attend donc bien sûr une décision, et on devrait faire partie d'un groupe de travail qui a été annoncé pour justement voir à limiter le maximum les nuisances. En sachant aussi que on parle toujours des motos qui font du bruit, mais il faut savoir que tous les gens qui font de la piste, ils sont limités par le bruit. On a plein de, il y a plein de circuits.
Il y a déjà une limitation de toute façon.
Il y a plein de circuits où si vous avez une moto trop bruyante, on vous arrête. Un exemple comme le circuit de Spa-Francorchamps, vous avez un sonomètre avec un appareil photo. Si vous passez avec un bruit supérieur à 105 dB, il y a une photo qui est prise et vous êtes exclu de la course.
Vive les deux
mannes. Sur le circuit de Lausanne, vous le prenez aussi, ce son.
Alors, à Lausanne, on a un sonomètre. Je pense qu'on devrait s'équiper d'un nouveau matériel un peu plus performant. Mais je pense que la suppression du bruit ne sera jamais complète, en sachant que une moto qui tourne, plus une, plus une, plus une, quand on a une série de 20 motos...
Est-ce que ça s'additionne ou...
Ça s'additionne pas vraiment.
Pas vraiment.
C'est un peu un calcul un peu particulier. Mais il est vrai que les sessions étant toutes les 10 minutes, à 15 minutes, on a, je pense pour les habitants de l'Équin, cette impression d'avoir toujours du bruit, même si on a fait des horaires.
Il y a comme l'autoroute de Valenciennes, qui, plus la ligne TGV qui est derrière, plus les buts.
Oui.
Cette route qui fait un bruit permanent, un bruit de fond. Alors il y a un bruit de fond. On l'entend, effectivement, quand on fait attention, on entend ce bruit de fond. Mais une moto qui sort du bruit de fond, ça perturbe.
Effectivement, voilà. on lui avait mis en opposition le fait qu'il y a le TGV qui passe juste derrière les habitations. Mais il dit, ouais, mais le TGV, ça passe un coup, et puis après, on est tranquille pendant une heure. Bon, je pense que c'est un peu la répétition des bruits de moto qui le dérange. Bon, et aussi...
Il a bien dit que c'était pas tout le temps, quand même.
Il a bien dit que c'était pas tout le temps.
Sur le circuit, on a fait des efforts aussi, au niveau... Le dimanche, on tourne pas avant 10h. À midi, on arrête, et on prend à 14h.
Jusqu'à
17h, donc...
Les horaires sont stricts. Bon, il y a une limitation du bruit qui est demandée à tout le monde au départ. Et je pense que ce sera une des pistes de travail qui doit être maintenue. En sachant que notre but, c'est de maintenir le fonctionnement du complexe encore pour une trentaine d'années, au moins, puisque c'est quand même un outil formidable, il ne faut pas l'oublier. C'est un outil formidable qui sert à l'ensemble des gens de la région, mais qui sert aussi à des jeunes, qui sert aussi à de la réinsertion, qui sert aussi... C'est un lieu de détente et de rencontre. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites sur ce complexe moto. Et il ne faut pas voir que le côté... émergent de l'iceberg, comme on dit, avec quelques machines qui peuvent faire du bruit et gêner les riverains. Mais il faut voir tout le côté du fonctionnement, en sachant qu'il y a quand même aussi 9 personnes qui sont salariées sur le complexe moto. C'est quand même pas rien. Hein, donc, en sachant que nous, on voudrait avoir toutes les possibilités de perdurer dans le temps et de continuer à faire vivre ce complexe moto encore pendant une bonne trentaine d'années.
Donc là, le bail, c'était capital, c'était l'action, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait re-signer avant. Hein. Il fallait avoir une réponse avant le mois de décembre.
Avant le mois de décembre.
Donc là, on est reparti pour un an. Est-ce qu'on peut commencer maintenant les travaux d'homologation?
La problématique des travaux de l'homologation, c'est que c'est quand même un coût relativement important.
Ouais, on a déjà un budget.
Il y a déjà un budget, sauf que si on n'a pas de certitude.
Ça veut dire que pendant encore un an, on va encore rester sur une jambe pour savoir si...
Non, parce que je pense qu'au niveau de la présidente, Mme Dalle, elle va faire tout le maximum pour que ça passe directement en commission de la MEL, pour qu'on puisse avoir une prolongation de notre bail, hein, sur une durée de 15 ans, qui permettra...
15 ans, ça permet de voir un peu l'avenir.
Parce
et d'engager des sommes plus importantes pour l'aménagement.
Des travaux, tout
des
à
travaux,
fait.
Voilà.
Donc,
dans le but d'homologuer donc ce circuit.
Voilà, par la FFM.
Par la FFM.
Donc il faut continuer à se battre.
Donc ça veut dire que finalement, là, rien ne va changer pour l'instant, l'année prochaine.
Ben, disons qu'il faut continuer à se battre, hein, en sachant que la prévision des travaux, c'était pendant la période hivernale. Hein. On va pas aller commencer à faire les travaux sur la piste, alors que on est en pleine saison d'utilisation du circuit. Hein. C'est à partir de maintenant jusque fin septembre, début octobre, qu'on aura le maximum d'utilisation.
Si on n'est pas sûr que dans un an, c'est-à-dire que
donc
en 2016, le circuit, le bail n'est pas re-signé.
C'est pour ça qu'on a un peu de marge de manœuvre, mais il faut continuer l'action et il faut continuer auprès de la MEL pour avoir une certitude de prolongation du bail pendant au moins 15 ans.
Bon, très bien. Jean-Marc, je pense qu'on a fait un petit compte-rendu, hein, de tout ce qui s'est dit. Ouais. Ce que pense le maire, au moins. Hein,
voilà, et puis nous, il faut qu'on soit encore plus vigilant sur le bruit, mais aussi être très très vigilant et appeler tous nos amis motards de la région Nord-Pas-de-Calais et de la métropole lilloise à être prêts à défendre leur circuit si jamais on a encore des oppositions au niveau de cette signature du bail.
Très bien, on va te laisser parce que je sais que tu dois partir là, tu es très pressé aujourd'hui. Écoute, on va suivre cette histoire là malheureusement encore jusqu'à l'année prochaine. Alors c'est pas fini encore.
Non, c'est pas fini.
C'est pas fini. Bon. Très bien. Eh bien, on te remercie d'être venu ici aujourd'hui au magazine de la moto à Campus. Merci.
Eh bien, au revoir à tout le monde. Salut.
Bon, Christophe, retour sur ce sommaire du MAC de juin. On sera billes, tiens, pourquoi on était à poil?
Voilà, oui, c'est, bon, j'ai intitulé la chronique comme ça. Alors, avant d'en parler, mais c'est lié, hein, je fais remarquer, donc il y a toujours les pages régions, même si aujourd'hui on écrit, nous, les correspondants régionaux, surtout pour le net, hein, donc pour motomac.com, mais il y a encore un espace de parole, je vais dire, ou d'écriture pour les rubriques donc, qui se passent en région. Et là, c'est symptomatique. Les trois sujets qui sont traités donc, au niveau national portent tous sur des classiques. Hein, donc les Iron Bikers, qui se sont déroulés au mois d'avril. Donc là, il y a un retour là-dessus. La montée historique du Mont Ventoux. Alors, je pensais tout à l'heure, en vous écoutant et en regardant la préparation de ce sujet, à Pike Peak, il y avait une certaine analogie, puisqu'en fait, cette course, elle existe depuis 1902, et donc jusqu'en 1976, et elle a été remise au goût du jour.
Ce qui est, c'est que Mont Ventoux, c'est moins haut.
C'est moins haut, oui, mais ça doit être assez impressionnant. Moi, je ne la connais pas, mais... voilà. Et 200 pilotes, donc, se sont réunis récemment. Et aussi, une course, donc, pas une course, plutôt une démonstration d'ancienne, mais là, Hambourg et en Bretagne, donc par les vieux clous de les vieux pistons, pardon, redonnés. Donc un point commun à tout cela, on est sur des motos classiques. Et pour aller sur des motos classiques, eh bien, on s'habille classique. Et donc Motomac consacre un très beau dossier au blouson cuir. Mais évidemment, des blousons actuels qui sont analysés donc sur leur esthétique, leur aptitude routière, leur protection. Hein, tout à l'heure, Jean-Yves me posait la question, évidemment que ces blousons sont coqués. On peut avoir une dorsale où elle est livrée d'origine. Vous trouverez donc 10 blousons vraiment vintage et bon, dans des budgets qui tournent autour de 300 à 500 euros. Hein, évidemment, c'est du cuir. Et on apprend pas mal de choses sur la façon dont ces produits-là sont mis en fabrication. Se rhabiller également. Alors tout à l'heure, je vous disais une expérience personnelle. Vendredi, je me suis fait prendre par l'orage et j'étais sur l'autoroute A21.
Par derrière.
Merci Jean-Yves.
Pas un gros biker. Alors,
justement. Et donc, en fin de journée.
Mais rigueuse.
Arrivant les grosses gouttes, enfiler la combinaison vraiment comme ça dans l'urgence. Surtout à cet endroit-là, vous remarquerez entre Lain et Douai, c'est très sombre au niveau de Noyelles-Godault, là, hein, dans l'enseignement Métal Europe. Donc je suis sorti, je me suis arrêté sur un rond-point. Et je remercie d'ailleurs, s'il nous écoute, je le salue, le biker qui s'est arrêté quasiment pour me demander si tout allait bien. Je dis, pas de problème.
Il s'appelait l'orage.
Le biker qui m'a arrêté, qui m'a...
Il s'appelait l'orage, le biker.
Voilà, c'était la rubrique humour. Bon, enfin, pour terminer la chronique, c'est bientôt l'été, donc vous aurez à découvrir 120 adresses donc de relais moto, donc chambres d'hôtes, hôtellerie, etc. Restaurants. Je suis même venu, je fais de la pub pour eux parce qu'on a été logé chez eux, camping route 89, dans le Massif central. Et vous trouverez donc des adresses où vous aurez un bon accueil et qui vous permet donc de passer des vacances sereines. Voilà. Et si vous savez pas quoi faire le 28,
ça c'est une annonce pour notre One Master Nicolas.
Voilà.
Nicolas Poiret. Nicolas. Parce que lui, il adore ça.
Qui a les oreilles qui se dressent quand on parle de chien sur les motos. Donc je lui ai trouvé un rassemblement.
Les oreilles et la queue.
Les gueules de chiens, oui. Hein, donc réunissent le 26, 27 et 28 juin 2015, un week-end moto. Alors, c'est pas tout près d'ici.
C'est une concentration de chiens, une concentration de chiens.
Alors, pas d'explication, mais c'est quand même les gueules de chiens. Hein. Et ça se passe au col de la Madeleine. Donc, évidemment, c'est un peu loin. Mais je pense que la montagne au mois de juin, c'est pas mal.
Et tu ne peux participer que si tu as un chien ou une chienne.
Bon, on va leur téléphoner pour savoir si on peut venir avec son chien.
Le chien à deux pattes.
Et qui supporte l'altitude.
C'est fini, Christophe. Bon, parce que là, tu dois partir aussi.
On va redevenir sérieux. J'en ai terminé. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous pour un prochain mag.
Ce sera en octobre.
Voilà.
En
octobre. Mais entre deux, il y aura une publication en juillet et août. Donc,
oui, pour le sommaire sur Campus Magazine de la moto, ce sera en octobre. Malheureusement, 3 mois d'attente.
Voilà.
Bon, voilà. Bah, tant pis, c'est comme ça.
Allez, bonne route à tous et soyez prudents. I think about doing this daily. I think
watching us, and you're the only one I trust. I never wanna leave you, I always wanna see you. The music's gonna stop, so do you wanna rock? Everybody's watching us, and you're the only one I trust. I never wanna leave you, I always wanna see you. The beat is calling us, I never wanna get enough. Everybody's watching us, and you're the only one I trust. I never wanna leave you, I always wanna see you. The music's gonna stop, so do you wanna rock?
Au téléphone, on retrouve notre motard citoyen et luttant. Guy, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Guy, tu vas nous parler du gilet jaune.
Voilà, il y a un décret qui a été publié dimanche 10 mai et qui étend aux motards l'obligation de détenir un gilet de haute visibilité à compter du 1er janvier 2016. Donc là, il faut bien prendre compte des mots employés. Hein. L'obligation de détenir un gilet de haute visibilité à compter du 1er janvier 2016. Alors, le décret contient concrètement trois obligations. L'obligation de détenir, donc tout conducteur de deux roues motorisées, trois roues, quatre cycles, etc., non carrossé, devra disposer d'un gilet de haute visibilité sur lui ou dans un rangement du véhicule. Donc les mots sont importants. Hein. La deuxième obligation, l'obligation de revêtir. Le gilet devra être porté lorsque le conducteur sera amené à quitter son véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence. Donc l'obligation de revêtir à la suite d'un arrêt d'urgence. Et la troisième obligation, l'obligation de présenter le gilet en cas de contrôle routier. Voilà, donc ces trois obligations sont publiées donc par le décret du dimanche 10 mai. Alors, ce à quoi on a échappé, c'est au port en permanence, de nuit comme de jour, pour circuler. On a échappé à ça. Des amendes, mais pas de retrait de points. Au début, on avait parlé de retrait de points si on ne possédait pas. Aujourd'hui, le fait de ne pas disposer d'un gilet de haute visibilité sera puni d'une amende de première classe 11 euros. Et ça passe à 135 euros en cas de non-port dans les situations d'urgence. Voilà. Le gilet jaune, donc c'est un gilet jaune marquage CE, c'est-à-dire qu'un simple brassard rétro-réfléchissant ne suffit pas. Voilà les obligations. Et donc on a échappé au fait de le porter constamment en circulation, comme ça avait été prévu il y a quelques mois. Donc on peut faire une croix dessus, normalement. Et donc la FFMC, par rapport à cette nouvelle obligation, dit que ça reste sans effet sur la sécurité routière, puisque la proportion des blessés chez les conducteurs de deux roues qui se font accrocher en cas de panne, c'est extrêmement faible. Alors je reprends le commentaire de Marc Bertrand, qui est chargé de mission de sécurité routière à la FFMC, hein. Pourquoi, si la visibilité d'un motard en panne est si importante, pourquoi les autorités suppriment-elles l'éclairage sur les voies rapides urbaines? Pourquoi les feux de détresse ne sont toujours pas obligatoires sur les motos neuves vendues en Europe, alors que ça, les technocrates ferraillent pour imposer le contrôle technique, vous avez peut-être entendu parler. Alors, voilà, donc, on accepte ça. Hein. D'un autre côté, ça ne semble pas très habile de râler en disant où est-ce qu'on va le mettre, puisque ça fait quand même plusieurs années qu'on a, bon gré mal gré, résolu le problème du transport de l'antivol.
Alors Guy, je t'interromps, parce que apparemment la FFMC a fait fabriquer des gilets jaunes porte-clés.
Oui, non.
Parce que dans la loi, il n'y a pas de dimension, en fait. Tu dois avoir un gilet jaune, mais on ne dit pas un gilet jaune que tu dois, que possible pour un être humain, quoi. Enfin, tu vois la taille d'une personne, quoi.
Voilà.
Tu vois. Donc, apparemment, c'est un petit porte-clés, gilet jaune, voilà. Donc, on peut présenter son gilet jaune.
On peut le tenter.
Qui sera beaucoup plus pratique à transporter en moto.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, voilà, donc je fais court, hein, et la conclusion de Marc, hein, Bertrand, c'est, à nouveau, c'est encore une mesure à la con, plus basée sur une fixette sécuritaire que sur des motifs d'objectifs de réduction de risque routier. On ne peut que applaudir.
Surtout voilà. Que ça sera vachement utile quand on a été renversé par une bagnole,
ouais.
Qu'on a une jambe en confiture, de recourir vers sa bécane pour se
Alors, écoute, alors justement, je vais penser à ça. T'imagines, t'as une jambe en confiture, comme il dit
oui.
Jean-Yves.
Oui.
Mais malheureusement, bah, tu peux pas. Tu te traînes pour aller chercher ton gilet jaune sur la moto. Et là, bah, tu mets du temps. Et manque de bol, les flics arrivent.
Voilà.
Et là, ils arrivent. Mais vous avez pas votre gilet jaune?
Oui.
Ce sera 90 euros.
Non, 100, alors, 135.
Ah, 135. Voilà, 135. Alors déjà, t'as les boules parce que t'as une jambe en confiture et te refoutent encore 135 euros parce que t'as pas ton gilet jaune.
Exact.
C'est ça devient un petit peu débile.
C'est complètement débile. Donc effectivement, il faudra le mettre dans un coin sous la selle, machin, comme un torchon. Et puis, c'est, parce qu'en fait, c'est ça où ils vont nous emmerder. C'est-à-dire, quand il y aura des contrôles, il faudra le montrer. Par contre, effectivement, en cas d'accident, ça sera difficile de
l'enfiler.
D'exiger d'enfiler un mec qui est complètement...
Si on fait un parallèle avec la voiture et la moto, on peut pas faire d'ailleurs de parallèle.
Non.
Le gilet jaune, à la limite, on peut l'avoir à disposition sur une voiture, mais...
Hein. Oui, oui.
C'est le problème de l'équité, là, qui vont nous
voilà.
Balancer dans le nez.
Ouais. Oui, alors, oui, les propos, c'est ça. L'équité entre... si les automobilistes ont ça, ben, les motards doivent aussi l'avoir.
Alors, vu qu'on déborde un petit peu, hein, je voulais
limiter. Oui, parce que ça fait 5 minutes, Guy, et je t'avais dit 3.
Voilà, la réflexion de Marc, c'était dire, qu'est-ce que ça veut dire l'équité? C'est idiot aussi débile que de vouloir imposer le port du casque aux automobilistes.
Exactement. Bah, d'ailleurs, on va lutter pour ça, nous. Voilà, port du casque pour les automobilistes. Allez, hop.
Allez, bonnes vacances, bonne route.
Merci, Guy, et puis au mois d'octobre. Salut. I'm L'info de la région, c'est aujourd'hui avec Jean-Yves Ballois, qui est membre de la FFMC 59 Nord.
Et de FDM également.
FDM aussi. Tu vas nous parler de cette action motarde un jour. Hein. Moi, je sais ce que c'est, mais je pense qu'il faudrait mieux rappeler aux auditeurs un peu.
Eh ben, on va rappeler aux auditeurs ce que c'est que l'opération motarde un jour. Sachant qu'il est plus intelligent de se concerter avec un adversaire potentiel et de discuter plutôt que lui rentrer dans l'art parce qu'il a pris des décisions imbéciles. L'idée de motard d'un jour, c'est de faire découvrir à nos élus, à ceux qui doivent entretenir les infrastructures et autres, les points noirs pour des motards. Et là, j'ai participé cette semaine à deux motards d'un jour, une session à Bézieux et une session hier à Carvin. Et le problème, c'est que effectivement, les gens, les élus ou les responsables infrastructures ne se rendent absolument pas compte de ce qui est dangereux pour un motard.
Ça se passe comment? Parce qu'ils n'ont pas de combine. On leur offre le casque. Comment ça se passe?
La FFMC organise
ça. Ils sont en souliers costards?
Non. Ils sont en souliers parce que bon, on peut pas leur mettre de bottes, mais on leur prête un blouson, on leur prête des gants, on leur prête un casque et on les charge derrière une moto et on se balade dans la ville ou sur route pour leur montrer tous les points noirs d'infrastructure.
Ah, déjà, quand ils enfilent le casque, si c'est à l'intégral, ils se rendent compte de la vision déjà.
La vision déjà très...
qui est diminuée.
Et pas seulement la vision, mais moi
enfin,
hier...
L'angle de vision.
J'avais hier une brave dame qui était responsable infrastructure à Carvin et qui a dit, mais c'est pas possible, il va falloir que je repasse en voiture sur ce chemin-là. Parce que je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait autant de trous et autant de nids de poules dans ma ville.
Peut-être que vous faites sous esprit, vous roulez aussi.
Non, justement.
Pour leur faire voir que, écoutez, c'est bien beau de mettre des radars, mais de temps en temps, il faudrait quand même aussi dépenser un peu d'argent pour les infrastructures.
Justement, hein, c'était un gros problème. Alors, surtout, je voudrais pousser un coup de gueule à cette occasion-là, parce que Benoît, donc coordinateur FFMC, a envoyé 135 invitations à tous les maires et communes pour qu'ils délèguent, bref, qu'ils viennent pas lui, parce qu'on se doute qu'un maire n'a pas que ça à faire, mais qu'ils délèguent au moins le responsable infrastructure de sa commune. Et sur ces 135 invitations, il n'y a eu que 5 participants. Comme par hasard, il y a eu aussi 2 RG, c'est amusant, c'est pas ce qu'ils sont venus faire. Ils sont pointés à 9h, ils sont partis à 9h30. Passons. Donc, c'est très important, justement, de faire découvrir aux gens les problèmes qui percutent directement les motards, mais nous aussi, savoir leurs problèmes à eux. Parce qu'effectivement, en discutant avec un gars responsable de des routes départementales, on s'aperçoit que lui, il reçoit des plaintes. Il me dit « Ah ben non, mais moi, je peux rien faire. C'est pas cette route-là dépend de la commune ou ça dépend de la MEL. Moi, je peux m'occuper que des départementales. » Ce qui fait que l'administration française est tellement bien foutue que c'est le bordel intégral. Et donc, il y a une route qui, sur tel tronçon, dépend de celui-là. Le tronçon suivant dépend de la nôtre.
On n'est pas sorti de l'auberge. Dans 50 ans, ce sera toujours pareil.
Non, justement, c'est ça qui est quand même positif. C'est que malgré le peu de retour qu'il y a eu, parce que bon, finalement, on a forcé vraiment cette année, les gens qui ont participé, donc les élus ou les responsables d'infrastructure, ils étaient vraiment enchantés de la chose parce que ça leur a permis de voir une autre facette de leur boulot et des conséquences de leur boulot. Voilà.
Je pense qu'il y a aussi il y a une journée motard d'un jour aussi au complexe moto.
On est passé justement, où là on nous a expliqué aussi la problématique.
Pour leur montrer un peu.
On a pu voilà. à l'occasion faire un tour sur le circuit.
Ça c'était donc pour. C'est terminé pour les
moteurs d'un jour. Pour le moteur d'un jour, oui.
Revenir un peu sur cette.
La manif de la 16.
La 16, oui.
Je rappelle la problématique. Entre Calais et Dunkerque, qui est quand même une manif qui quasiment tout le trafic, aussi bien qui sort du tunnel que qui descend des ferries, c'est à toute heure de la journée et de la nuit. Et donc les gens devraient pouvoir se reposer sur des aires de repos. Et par hasard, entre Dunkerque et Calais, quasiment toutes les aires de repos sont hors service, pour vétusté, pour manque d'entretien. Et moralité, les gens peuvent pas se reposer et puis ils roulent comme des malades. Et puis,
donc les aires sont fermées ou...
Les aires sont fermées, condamnées complètement. Et donc la FFMC a voulu faire une manif justement pour sensibiliser les usagers et surtout les autorités. Et bizarrement, la demande de manif a été déposée bien longtemps à l'avance. Et la veille, la préfecture a dit « Ah non, on peut pas, c'était le 14 mai, donc c'était un jour férié, on peut pas, on n'aura pas assez de flics. » Première nouvelle qu'il n'y a pas assez de flics en France. Donc, et ça a été supprimé. Et on a voulu forcer. Donc, les motards sont quand même allés en petits groupes dispersés pour se regrouper devant la préfecture, mettre des banderoles. Pour rappeler le droit à manifester, ce droit-là existe. Et puis, une des pancartes, c'était « Vous pouvez accélérer sur la 16, il y a encore des piétons écrasés, allez-y ».
C'est quand même incroyable que c'est la Fédé qui se rend compte que toutes ces aires d'autoroute sont fermées, donc il n'y a pas moyen de se reposer. On sait très bien que la fatigue, ça, c'est générateur d'accidents.
Oui, justement, et c'est là un des gros points d'action de la Fédé, c'est que... qui fait appel à vous pour ça, c'est signaler les points noirs. Vous avez un nid d'autruche ou de ptérodactyle qui se développe dans votre patelin, transmettez l'information à la FFMC, 145 rue Nationale, tous les vendredis soirs, pour qu'on puisse, nous, essayer d'agir auprès des élus.
Voilà, très bien. Est-ce qu'on a terminé sur les...
Là-dessus, oui.
Les alors, activités, enfin, tout ce qui s'est passé le mois dernier, là, donc...
Je rappellerai donc les activités futures. Donc aujourd'hui, il y a le Festival Moto à Bouchain. Le samedi prochain, il y a la fête de la moto. Donc Interclub, rencontre Interclub organisée par la FFMC, dans le but est de faire rencontrer différents clubs.
À l'Homme.
À l'Homme, oui, sur le Mine de l'Homme, c'est le
donc
samedi.
Le but, c'est de faire rencontrer les clubs. Hein.
Les clubs,
ouais. Chacun peut venir présenter son programme. En fait.
Et puis donc...
C'est sorti, les balades, ce qu'il fait durant l'année.
Voilà. Et puis donc, je voulais filer aussi les dates de... ici. Les dates de l'AFDM, parce que on est motard, mais on peut se perfectionner. Donc les prochains stages ont lieu le 26 et 27 juin, et il n'y a rien pendant les vacances, et puis le 18 et 19 septembre. Et là, allez voir sur le site. Voilà. Au revoir les gens.
Bon, Jean-Yves, on va terminer avec la prise de sang.
Vampirella.
Non, mais alors attends. Nous sommes en compagnie de Nathalie. Nathalie qui a un beau projet, généreux. Donc, c'est effectivement, on doit donner son sang. Alors, moi, je l'avoue, je ne l'ai jamais donné. Alors, bon, toi, je ne veux pas dire. Oh, bah, écoute. Non, mais pourquoi j'ai me donné? Parce qu'on ne m'a jamais demandé. Voilà,
on n'y a jamais pensé.
Donc, et Nathalie a une idée, c'est que dans chaque rassemblement moto, que ce soit une fête de la moto, une balade ou n'importe quoi, ou même une bénédiction, dimanche prochain, il y a la bénédiction de l'Alain. Là, donc, on ne sait pas si ça marche, la bénédiction. Hein. On ne sait pas s'il y a moins d'accidents. Ceux qui sont été bénis, c'est garanti.
Ça fait rouiller les motos, surtout.
Voilà. Donc, Nathalie a cette idée de, à chaque manifestation, de faire venir, je sais pas,
une sensibiliser.
Sensibiliser les
en
gens
fait.
Pour faire cette prise de sang, une prise de sang.
Non, c'est pas une prise
un
de
don.
Sang.
Non, un don de sang, oui. Alors, on s'est dit, attention, un don du sang. Voilà, un don du
le
sang.
But n'est pas de regarder ce que vous avez dans votre sang, c'est de le donner.
Non, c'est de le donner.
Voilà. Alors, en fait, bon, nombreux sont les motards accidentés sur la route, donc on y pense en se disant, ça peut être moi, ça peut être mon copain. Et parfois, ben, ces motards ont besoin d'être transfusés. Bon, il n'y a pas que, il y a aussi des bébés prématurés qui peuvent avoir besoin d'être transfusés, des gens qui ont la leucémie. Mais moi, je me fixe sur les motards qui pensent à leurs copains motards ou à eux-mêmes, qui peuvent se retrouver sur le bitume à un moment donné. Donc, l'idée, c'est de se dire, tiens, je vais penser à donner mon sang. Alors, si je ne peux pas le donner aujourd'hui parce que je suis sous traitement médical ou des choses comme ça, c'est pas grave, je peux le donner une autre fois. Ça, c'est pas à moi de juger, c'est au niveau de l'EFS, donc l'établissement français du sang, qui déterminera si votre sang est recevable ou pas. Mais l'idée, c'est d'aller le donner. Parce qu'on a besoin de 10 000 dons par jour pour sauver des vies. Il y a 1 million de malades par an qui ont besoin d'être sauvés.
Nathalie, c'est ce qu'on entend dans les spots télé et
voilà.
Tout ça. Mais là, on est dans une émission de Bécane.
Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, justement, pour cette prise de sang
en fait,
pour les motards voilà.
L'idée, c'est que les motards ne sont pas toujours concernés, ne se sentent pas concernés, alors qu'ils le sont, finalement, peut-être plus que d'autres personnes. Donc, c'est d'y penser. Moi, mon but, c'est de les tracter sur les concentrations pour dire, voilà, allez donner votre sang. Par exemple, la semaine prochaine, je serai sur l'Alain, mais l'idée, ce sera de diriger les gens vers Valenciennes ou Bouchain. Je sais qu'il y a une collecte à Bouchain. Et pour qu'ils y aillent maintenant, à l'avenir, c'est de mettre sur chaque concentration un camion ou un lieu,
parce que
un lieu où on peut le donner.
Tu sais, pendant durant une manifestation, hier, je faisais à Bouchain, il y a des temps morts, hein, il y a des moments où tu vois qu'il y a le camion qui est là. Parce que moi, je parle de camion parce que je vois toujours souvent les camions qui. Hein, et donc, tu peux aller donner ton sang, d'autant plus que bon, après, tu peux continuer les activités.
Bien sûr.
Parce que tu as donné un peu de sang,
tu vas
avoir des problèmes.
Non,
tu peux même boire une bière avant.
Voilà.
Après.
Non, c'est pas vrai.
Si, et là,
ça, c'est
très
franchement, je savais pas. C'est vrai.
C'est très possible.
Ah, moi, je pensais qu'il fallait pas boire.
Mais non, pas du tout.
Quand on en est son sang.
Vous n'êtes pas là pour.
Ah non, mais ça, c'est une nouveauté. Ça, je viens d'apprendre ça. Donc, on peut boire.
C'est ce qui t'empêchait de donner le sang.
Non, c'est parce qu'il a peur des piqûres.
Oui, alors ça fait pas mal. Hein, hein.
Non.
Tu sais, les motards maintenant sont de plus en plus douillères.
Mais on est content quand on sort de là. Je vous assure que c'est une satisfaction.
Donc, effectivement, on imagine. Déjà, on prend le calendrier des motoclubs. Hein,
bien sûr.
Quand tu vois déjà le nombre d'activités chaque week-end, il y en a plus que ça. Il y a toutes les activités qui ne sont pas dans le motoclub, dans le calendrier, je veux dire. Donc, effectivement, ça ferait beaucoup de quantité de sang récoltée.
Et moi, quand j'ai parlé de ça, parce que j'ai des bénévoles de l'association des donneurs de sang bénévoles de Flers qui vont m'aider à tracter, ils m'ont dit, mais c'est génial comme projet, parce que nous, on cherche des donneurs. On ne savait pas où aller en chercher.
Et je pense qu'il faut aller sur les sites pour aller. Voilà. Justement, les gens, que ce soit là tout de suite près d'eux pour pouvoir donner. Je crois que les gens, maintenant, il faut que ce soit très près d'eux pour qu'ils agissent.
Voilà. L'émission se termine. Dimanche prochain, il va y avoir une collecte de sang. À l'Alain,
À Valenciennes.
Voilà.
C'est au centre de.
Voilà. Mais il faut faire le.
Oui, il faut faire le trajet.
Le trajet. Donc,
alors, en attendant que ça se mette en place, il faut 6 mois au moins pour placer une collecte. Hein,
voilà.
Donc, on peut pas comme ça.
Donc on va avoir des nouvelles de temps à autre. Tu nous appelleras et tu nous diras un peu. Voilà.
Alors juste une petite chose, c'est que l'Union départementale du Nord m'a demandé aussi, être très, très intéressée par mon projet et voudrait le développer jusque pour toute la France entière en fait.
Très bien.
C'est ça.
L'émission se termine, il nous reste 30 secondes. Jean-Yves, merci pour toutes ces informations. Et nous, on va se retrouver le premier dimanche d'octobre. Voilà, c'est à 3 mois de vacances. Voilà. Merci Nathalie, on essaiera de maintenir en contact au niveau de ces collectes de sang. Merci Christine pour toutes les infos. Voilà. Et bon, on va laisser le mot de la fin de cette émission à notre technicien adoré, Lolo.
Au revoir.
Au revoir, président.